Moi, c'est Elsa et Régine. Donc, on est bénévole à l'association Thanatosphère. Donc, c'est une association qui a été créée en 2022 par Agathe Bénard. Peut-être que vous avez déjà croisé ou rencontré. Donc, c'est une association qui, je dirais, qui a pour but de faire sortir la mort du silence. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, la mort, elle est quand même relativement taboue. Je pense qu'il y a peu de structures, peut-être mis à part les pompes funèbres, les pompes funèbres, je ne sais pas, où on parle vraiment de la mort, peut-être avec ses proches, avec la famille, et encore, ça reste quelque chose de très tabou. Donc nous, on est là pour la sortir du silence en faisant plusieurs choses. Donc les cafés mortels, que Régine présentera un petit peu mieux tout à l'heure. On fait aussi des ateliers. Des ateliers thématiques, notamment sur les directives anticipées, que Régine anime aussi. Et on fait des événements très ponctuels. Alors, tous nos événements, vous pouvez les retrouver sur la page de Thanatosphère. Et on a aussi une page Facebook. Et vous pouvez voir tout l'agenda dessus. Donc, je vous invite à aller voir le site internet. Il est à jour, hein, il n'y a pas de souci. Et notamment, on va faire quelque chose à Oust-sur-Sion. On va faire tout un programme... qui s'appelle « Et si on parlait de la mort ?». Donc, je vous invite vraiment à aller voir, ça va être très chouette, si vous êtes du coin. Pour le tour de l'association. Donc, on est plusieurs bénévoles. Et est-ce que tu souhaites te présenter ou pas du tout?
Je suis Charlotte et je fais aussi partie de l'association. Mais j'ai assisté qu'une fois à un café mortel, voilà. Et là, j'ai envie d'assister à nouveau à un café mortel. J'ai pas fait la formation pour animer les cafés mortels, parce qu'il y a une formation pour animer les cafés mortels qu'elles ont toutes de faites. Voilà, moi je l'ai pas encore faite, mais tout ça c'est libre. Après, c'est curiosité. Vous pouvez aussi animer des cafés mortels après, si vous en avez envie. Enfin voilà. Donc moi là, je suis là comme vous tous.
D'accord. Merci.
Très bien. Donc je vais pouvoir vous parler donc du café mortel en question, les règles du café mortel. Au sein même du café mortel, donc c'est un témoignage, chacun va témoigner ou pas, va écouter, on s'écoute, on se respecte, on ne fait pas de débat, c'est pas du tout un débat, à la fois on peut des fois avoir envie de faire un débat politique sur les actualités du moment, débat religieux, c'est pas du tout le but du café mortel, le but est essentiellement de témoigner, et peut-être se dire qu'il est possible de soulager sa douleur, en écoutant le témoignage de l'autre, peut-être. On peut rire, on peut pleurer, on se respecte dans tous les cas. Nous, on cadre au niveau de la parole, on pense que par rapport au temps qui nous a imparti, on ne peut pas permettre à quelqu'un, par exemple, de prendre la parole pendant 3 quarts d'heure. Mais le but est vraiment de ne pas se couper la parole. Si jamais on sent que nous, c'est trop long, c'est à nous de dire, voilà, chacun son tour. Je voudrais juste commencer par un petit texte de Bernard Crétaz, parce que l'inventeur, celui qui est à la base du Café Mortel, c'est Bernard Crétaz, c'est un sociologue, ethnologue suisse, qui a mis ça en place à une époque aussi où il s'est dit que la mort était un tabou et qu'il fallait peut-être en sortir et qu'il fallait peut-être l'exorciser. Et il a commencé à faire ça dans des cafés en se disant il faut que ça soit des lieux publics, il faut que ça soit facile, il faut qu'il y ait de la consommation, de l'animation, on part, on revient, on en sort, voilà. Et c'est libre, pas de réservation. Il a commencé des fois avec des 300 personnes sur des cafés, je ne sais pas où il pouvait faire ça en Suisse. Et donc voilà, et Agathe Bénard a voulu reprendre donc ce principe-là. Je vais donc commencer par un texte qui vient de lui, et qui dit que la mort ferme, la mort enferme, bétonne, réduit, isole, d'autant plus que de grands secrets se sont développés. Le café mortel permet d'ouvrir la maison fermée, de laisser entrer l'air et la lumière, de prendre l'air soi-même, de faire sauter le cocon atroce qui nous enveloppe. La mort ferme le corps, le broie, le racornit, le ramasse sur lui-même. Le corps de l'endeuillé porte la mort sur lui. Ici, au Café Mortel, le corps se déploie, se montre, s'habille pour sortir. Il prend le risque de voir dehors et de laisser voir dedans. Il affronte le regard d'autrui hors de toute drague ou séduction. Il est encore maladroit, car il s'essaye à une nouvelle posture d'endeuillé en ouverture, dont il ne connaît pas encore les gestes. Je dirais simplement qu'au Café Mortel, le problème c'est qu'on affronte une assemblée, ce qui est difficile des fois de s'exprimer. On est prié de se lever, ce qu'on ne vous demandera pas ce soir, de venir à la lumière, debout face à d'autres qui écoutent le moindre de vos mots. On est attendu sur l'authenticité, et au moment où l'on se demande « Mon Dieu, qu'ai-je dit ?», les autres vous parlent et vous demandent d'entrer en interaction tout en vous refusant de devenir un héros en exhibition. Donc, le but, c'est, on est simple, on témoigne, le Café Mortel est ouvert.
Donc voilà, moi je voulais vous parler de mon grand-père qui a choisi de mourir, c'est-à-dire qu'il a été hospitalisé. Et donc moi, il se trouve que je partais à un congrès et ma peur, c'était de ne pas revoir mon grand-père avant qu'il parte. Et je savais qu'il avait choisi de ne pas se faire soigner, parce qu'il savait que s'il se faisait soigner, bah, il rentrait chez lui en fauteuil roulant, voire très, très handicapé. Il avait 94 ans, ou presque. Et donc, moi, je suis partie à ce congrès et donc j'ai prié. C'est mon petit truc. De façon à ce que je puisse lui parler une dernière fois. Et donc, lorsque je suis arrivée à l'hôpital, le lundi, dès que j'arrive, je l'embrasse. Et puis, il me dit, tu sais, Anne-Marie, je m'en vais. Je vais rejoindre le petit Jésus. Et donc, j'ai eu souri et je lui ai dit, papy, si tu es prêt, c'est bien. Si tu as choisi, c'est formidable. Et je t'accompagne, je suis avec toi. Et pour moi, c'est important. Dans la pièce, il y avait d'autres personnes qui disaient « Mais non, il ne faut pas que tu t'en ailles, il ne faut pas. » Et en fait, il avait demandé au médecin qu'il soignait de ce choix-là. Et ils ont accepté. Il fallait que donc, il avait 8 enfants. Et les 8 enfants étaient obligés d'accepter. Sinon, s'il y en a un qui avait dit non, il aurait été soigné. Et donc, ça aurait été contre sa volonté. Et il est tombé dans le coma la nuit même. Et puis, j'ai envie de dire que c'est le deuil que j'ai le mieux accepté, parce que justement cet au revoir, c'était très poignant. Et voilà, c'était et quand je parle de mon grand-père aujourd'hui, c'est toujours dans la joie, il y a toujours une émotion, parce que voilà. Et puis Radio Saint-Ferriol, voilà, c'était un peu sa radio aussi. Voilà, moi ça a été vraiment un très bon moment.
Par rapport à ce récit, c'est la mort de mon frère, moi, qui c'est une des premières, c'est la première mort la plus directe que j'ai vécue, parce que mes grands-parents, j'étais trop petit, là j'étais adulte, et j'ai pas, il a soumis cette éventualité qui partirait bientôt, c'était un cancer, on le savait. Mais il y a eu ce refus, ce voile devant les yeux de dire non. Enfin voilà, c'était pas possible ou pas imaginable. Et avec le recul, c'est ce que j'aurais aimé lui dire. Ben voilà, pour l'accompagner, c'est l'ego qui m'a fait parler pour me protéger, pour ne pas voir, pour tout ça. Et si j'ai un deuil ou une mort à vivre ou à accompagner à l'avenir, j'aimerais repenser à ça et dire ben oui, si c'est ton moment et c'est ton souhait et que tu es prêt, vas-y vraiment quoi. Et on est là et voilà, c'est ce qui m'a manqué à ce moment-là. Mais voilà, après, on ne pourra jamais refaire l'histoire, mais je trouve ça beau, et d'en reparler comme ça, c'est ce qui reste au final, c'est dire ben j'ai été là et j'ai pu lui dire au revoir, et on ouais. Donc ça me parle.
Donc moi c'est Gilles Glass. Le témoignage que je souhaiterais apporter, ou éventuellement peut-être le questionnement, je sais pas si quelqu'un peut m'apporter des réponses un peu technico-réglementaire, on va dire, par rapport à l'expérience que j'ai vécue. C'est qu'en juillet dernier, du coup, moi, j'ai perdu mon père, là, qui avait un peu moins de 80 ans, et qui a fait suite, donc c'est un décès physique, qui a suivi ce qu'on appelle le décès blanc, puisqu'en fait, il avait une dégénérescence sénile, en fait, voilà, son cerveau était vraiment complètement défaillant, et donc pendant les trois dernières années, c'est à chaque fois une descente de marche qui fait que sur les derniers mois, en fait, il est forcément alité, il n'y a plus d'interaction cognitive, on passe d'une alimentation un peu autonome à plus du tout autonome, un peu puis liquide, et puis après, sur les dernières semaines, c'était comme il avait un peu des fausses routes en s'alimentant, c'était, on va dire, un peu comment dire, inquiétant pour les gens qui l'encadrent et puis les soignants, de dire, bah, en fait, il peut s'étouffer. Donc, on a basculé sur des perfusions avec, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, du glucose et puis certainement de l'hydratation. Mais il y avait quand même un peu de fausse route au niveau de la déglutition. Et donc, qui a conduit au diagnostic du médecin de dire, bah, en fait, on n'a plus d'outils, on va dire, pour ne pas éviter quelque chose qui va être finalement un peu fatal. Donc on arrête la perfusion. Et donc, en fait, j'ai découvert, même si on le voit de loin et qu'on suit un peu de loin la loi Leonti, etc., enfin, tous ces dispositifs de fin de vie dont je ne sais pas bien en fait, définir quelles ont été leurs versions et quelles sont les conditions d'encadrement. Mais en tout cas, pour mon père, ça s'est traduit par le fait que le médecin a décidé de brancher la perfusion. Et donc, ça veut dire que on attend l'échéance fatale. Et ça, ça a été en fait violent, je trouve, enfin, ou en tout cas source d'incompréhension, de colère. On a eu la naïveté de penser, enfin, de poser la question, qui est de dire, mais enfin, on peut pas organiser l'échéance finale un peu plus rapidement. Et puis, ce qui m'aurait très bien convenu, c'est-à-dire quitte à ce qu'on fasse, on organise un dernier moment ensemble, etc. Mais de toute façon, l'échéance est certaine, la volonté est la même. Donc, je vois pas pourquoi on pouvait pas activer ça. Mais en fait, le cas précis n'était pas éligible au fait ou en tout cas, pas dans la volonté du médecin ou de ce qu'il était peut-être capable officiellement ou réglementairement de pouvoir accélérer la démarche. Et donc, du coup, il s'ensuit le fait que, enfin, ça a duré une dizaine de jours. Enfin, on attend, quoi. J'ai trouvé ça cynique. C'est le terme qui me vient. Même si je peux comprendre le médecin, je trouve que c'est. Je peux pas mettre ça dans la bienveillance quelque part, parce que même si la posture du médecin, c'est de dire on accompagne le soin, on ne donne pas la mort, on accompagne la vie, bah, quelque part, ça provoque de la souffrance, peut-être pas pour le patient, mais pour les autres. Donc, ça m'a. Bah oui, je ne sais pas le dos de conscience, etc., mais il y a un moment donné de ne plus s'alimenter, quelque part, on vient mettre en épreuve toutes les restantes forces. Et donc, je n'ai pas compris. J'ai tendance à penser que, en fait, finalement, la situation de mon père, qui, quelque part, il avait 78 ans, mais c'est comme s'il avait physiologiquement 95 ans, quelqu'un qui est vraiment au bout de ses capacités physiques, cognitives, etc. Et je me dis que c'est peut-être ce qui se peut produire la plupart du temps pour les gens qui ont cet âge-là, qui, à mon avis, sont sur les derniers moments où vont tirer le rideau. Et donc, de cette posture ou cette règle de gestion, si j'ose dire, qui consiste à dire, on attend. je ne comprends pas. Enfin, je ne vois pas quelle est la noblesse ou l'intérêt ou le. À gérer ça comme ça. Voilà. C'est,
Alors, au sein de l'association Thanatosphère, on a d'autres ateliers qui s'appellent les directives anticipées.
Et qui permettent justement de comprendre ce que tu dis, Gildas, à travers comment on peut faire pour mettre en place une fin de vie en étant acteur de sa fin de vie. Donc c'est un document complètement officiel, gouvernemental. Et donc ça, à travers notre atelier directive anticipée, on explique et on amène les gens au mieux de leur faire comprendre que les directives anticipées ont un intérêt réel. Et voilà, et quelque chose qui n'est pas encore vraiment compris dans la population, alors que ça existe déjà dans une loi, celle de 2016 que tu as citée. Et donc voilà, donc c'est un autre atelier de Thanatosphère qui est possible sur l'agenda de l'association. Il y en a qui sont prévus, il faut réserver, on le fait avec un minimum de personnes. Et voilà, on explique ça. Et ça permet effectivement de répondre, ça peut répondre aux questions que tu te poses. Voilà, sachant que ton père, en fait, n'avait pas d'entrée de jeu de lui-même choisi. Mais donc le but ici n'est pas du tout de donner de conseils, c'est juste une info par rapport à ce que fait l'association autour de ça. Voilà.
Parce que je peux me permettre, cette loi, elle aurait permis d'accompagner la mort de son père de façon différente, vraiment ou pas? Parce que là, on parle presque d'aider quelqu'un à mourir.
C'est pas la loi, c'est en fait les directives anticipées, tout simplement, point. Directives anticipées qu'on explique à travers nos ateliers qui permettent de décider de notre fin de vie au moment où la fin de vie est déclarée, décidée. Voilà, c'est un autre sujet, c'est donc pas celui de ce soir, mais il faut savoir qu'il existe. Voilà.
Au-delà de cet aspect un peu, on va dire, technique, on va dire, le témoignage que je voudrais apporter aussi, c'est que dans ce cadre-là, mais qui est enfin, somme toute assez banal et courant, c'est que du coup, il y a un deuil après le deuil, puisque moi, j'avais déjà fait le deuil de ce qu'était mon père, quoi, c'est-à-dire sa personnalité n'était plus là, donc quelque part, c'est une échéance. Et tout le monde va parler de délivrance, mais c'est quand même ce que j'ai trouvé assez fou, on va dire, en termes de réaction. C'est que, bien qu'en plus, il y avait cette histoire de on a débranché, donc on attend, donc on sait que ça va se produire, on sait que c'est une échéance qu'on attend. Quand le moment arrive, c'est quand même. Moi, ce que j'en ai tiré comme expérience, c'est que on est traversé de plein de choses, quoi. C'est-à-dire que c'est une page qui se tourne. Il y avait comme cette idée de dire les souvenirs s'effacent et donc ça nous rend plein de choses. À la fois le fait que on est confronté à cette échéance qui est la même, qui va être la même pour tous, qui est la seule certitude qu'on ait. Il y a le fait que c'est un jalon obligatoire qui fait qu'on se rapproche de notre propre jalon. Enfin voilà, j'ai traversé tout ça et c'est assez du coup très invasif et envahissant comme sentiment. Même encore une fois, alors que c'était pas soudain ni injuste quelque part, on peut pas s'empêcher de traverser par ça.
Ah, ce qui est donc à l'origine des cafés mortels et qui dit que la mort ferme, enferme, bétonne, réduit, isole. D'autant plus que de grands secrets se sont développés. Le café mortel permet d'ouvrir la maison fermée.
Tu l'as vécu aussi comme ça?
On est de nature assez tactile dans la famille. Donc et puis on en a parlé, on a vécu des moments donc qui ont permis ce rassemblement avant. Donc ça a conforté, Le passage était beau aussi après, ça a eu cette unité qui a fait que ça a soudé et que c'est une volée d'amour tout autour de ça. Et puis il a eu la force et la beauté de laisser un livre aussi sur son cancer, sur son chemin, sur sur tout ce qu'il a vécu pendant sa maladie, ce qui lui a permis d'avancer plus en paix et de nous livrer ses mots comme il l'a fait. Donc ça, c'était un cadeau énorme. Il a laissé une petite fille aussi merveilleuse qui est double cadeau. Donc tout ça fait que c'est douloureux de la perte, mais c'est son souvenir. Et voilà, il est toujours là autrement, mais il est toujours là. Et voilà, c'est ce qui porte aussi. On n'est pas comme une mort violente ou soudaine ou voilà, qui vous voilà, on est fauché en plein vol et on a beaucoup de mal. Après là, on a eu tout ça, donc ça aide beaucoup à avancer plus sereinement en tout cas. Mais c'est vrai que c'est la mort, c'est particulier. Et moi, j'aimerais en parler. J'en parle. Vulgairement, je suis encore jeune, je touche du bois, donc voilà, mais de dire voilà, comment on aimerait pour les organes, pour est-ce que c'est incinération, enterrement, enfin tout ça, le dire, et puis ouais, casser un peu ces barrières qui font que la mort, c'est moche, c'est on n'en parle pas, c'est...
Oui, alors, non, moi c'est Mireille, donc c'est vrai que la mort, quand on en parlait vis-à-vis de mes grands-parents, c'était quelque chose de tabou, de triste, c'était une fin, on a l'impression que c'est la fin de tout, et puis bien sûr la vie reprend, tout ça. J'ai perdu ma maman pendant le Covid, elle est rentrée au moment où on a été confinés, elle est partie quelques mois après. C'est vrai qu'avec mes frères et soeurs, on avait quand même pas mal parlé parce qu'il fallait bien sûr organiser tout ça. Et puis maintenant, c'est mon papa qui se retrouve dans une maison, dans un EHPAD. Et c'est vrai qu'on le sait que de toute façon, c'est la dernière maison, que voilà, on ne va pas le revoir. Quand on va le voir, bien sûr, c'est plus le même homme. C'était quelqu'un de très actif, de très voilà, et qui vraiment n'aurait pas voulu ce genre de fin. Et c'est vrai que le fait de savoir, moi, j'ai presque plus de problème avec la mort, parce que même si c'est bien sûr quelque chose d'inconnu, mais je le vois plus de la même façon, c'est-à-dire que je sais que c'est l'absence qui fait du mal, c'est pas la mort, c'est l'absence. Et quand je vois en fait mon père qui est comme ça, ça me fait de la peine pour lui. Mais voilà, ça me fait... Parce que pareil, j'ai fait mon deuil depuis longtemps des parents, du jour où ils ont commencé à avoir le cerveau qui commence à s'atrophier. Enfin bon, bref, voilà, c'est des termes médicaux, hein, mais c'est comme ça. Et puis en fait, c'est vrai qu'on se raccroche aussi. Moi, j'ai des petits-enfants, donc on se raccroche à ça. Et puis aussi, on se dit comment parler de la mort justement aux enfants. Donc moi, j'ai déjà... prévenu mes filles, hein, voilà, j'ai dit ce que je voulais, comment je voulais, et je propose ça vraiment, voilà, elles savent, voilà. Et c'est vrai que je me posais la question, comment en parler à mon petit-fils ? Et il sait que son arrière-grand-mère est enterrée, il dit qu'elle est là, et je trouve ça vraiment bien. Voilà, il en parle d'une façon, et j'espère qu'on... Enfin, ça serait bien de pouvoir en parler comme ça aux enfants. De dire que c'est pas, enfin, c'est une fin, après on croit en ce qu'on veut, hein, voilà, mais que il y a peut-être d'autres choses, que voilà, que nous aussi, hein, ça sera, voilà, mais, j'invite fortement les gens à parler à leurs petits enfants d'une façon plus, pas joyeuse, mais voilà, de quelque chose de plus réconfortant dans cette tristesse, quoi, de voilà, et c'est vrai que parce que oui, enfin, c'était moi, je sais que la mort chez mes parents, chez mes grands-parents, c'était tabou parce qu'il y a eu, c'était une époque mes grands-parents où bien sûr il y avait la guerre, donc des morts il y en avait eu des quantités et que les gens avaient du mal à s'en remettre, quoi. Voilà.
Il a quel âge votre petit-fils ?
Il a 4 ans et demi.
D'accord.
Donc il commence à. Oui, voilà, et je trouve que même s'il se rend pas compte, je pense que pour l'instant il a pas encore compris. Mais bon, quand on lui dit des choses, il prend et puis il se dit, bon, ben voilà, c'est comme ça. Et je pense que c'est que plus, justement, plus tôt on commence à leur dire des choses simples, comme on explique maintenant, on essaie d'expliquer sans trop approfondir. Mais voilà, je trouve que c'est mieux parce qu'on finalement, on a un rapport à la mort après qui est plus simple. Moi,
j'ai fait un AVC donc, cette année.
Et puis j'ai deux pathologies qui sont... voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Et donc j'ai failli mourir, tout simplement. J'ai un enfant, donc un fils, pour qui j'ai remarqué qu'effectivement c'était lourd, parce que je faisais la porter une certaine responsabilité par rapport justement à est-ce qu'on s'acharne, est-ce que je lui dis non, enfin voilà. Et que pour lui c'était assez lourd, donc... Mais j'avais pas le choix parce que j'avais que lui. Donc c'est vrai qu'après, ça suppose une réflexion, justement, maintenant que je suis encore vivante, bien sûr, de préparer ce terrain-là pour que, effectivement, ça ne se porte pas sur mon fils, parce que je trouve que c'est trop lourd. Donc ça, c'est, voilà, c'est un point. Et puis aussi, de justement, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Moi, c'est la question que je me suis quand même posée. Que je ne m'étais pas posé avant d'ailleurs. Alors après, bon, j'ai cherché pas mal de trucs, hein, mais je crois que. En fait, sur le coup, c'est quand même un peu flippant parce que je me suis dit, mais attends, j'ai encore plein de trucs à vivre. Ça m'embête un peu de partir tout de suite, quoi. C'est le premier truc que je me suis dit, en fait. Je me suis dit, ouais, j'avais encore des trucs à faire, quoi. Donc voilà. Mais quand même, il y a une notion qui était vachement importante, c'est de se dire, est-ce que j'ai bien vécu ? C'est le truc en fait qui m'est venu, c'est de se dire, est-ce que vraiment j'ai bien vécu ? Et je pense que si j'ai bien vécu, je vais bien mourir. Voilà, c'est un petit peu la réflexion que je me suis faite. Je pense que si vraiment on a cette sensation de pas avoir bien fait les choses ou de je sais pas de pas avoir fini des choses ou voilà, et ben je pense que la mort est beaucoup plus compliquée. Voilà, c'est tout ce que je voulais.
Bonsoir tout le monde. Moi je voulais dire deux choses. La première, déjà, c'est ça fait deux ans que je bataille un peu contre une maladie. Et contrairement à ce que tu disais, j'ai pas absolument pas pensé à que j'allais partir. Ça m'est jamais venu à l'esprit. J'en ai parlé cet après-midi ou ce matin avec ma femme, mais ça m'est jamais venu à l'esprit. Elle m'a dit c'est parce que tu te barres et tout. Mais pour moi, ça m'a pas percuté. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a quelques années. On a deux petits-enfants, et d'un côté, les deux petits-enfants, ils ont perdu l'autre grand-père, et ça a été très violent pour eux. Et c'est pour ça que par rapport à ce que tu disais, c'est bien, on n'en parle pas assez, et on n'en avait pas parlé. Maintenant, on commence à en parler, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'en avait pas parlé. Et pour eux, ça a été quelque chose, surtout pour le garçon. Il a mis longtemps à s'en remettre et ça a été très dur. Donc c'est vrai qu'il faut en parler. Et, parce que comme c'est une échéance qui va arriver à tout le monde, donc c'est pas quelque chose... ça va arriver, donc il faut sortir de ce tabou-là, oui. C'est vrai. Parce que quand ça arrive, s'ils sont pas été prévenus, s'ils ont pas... C'est dur pour eux. Très très dur. C'est dur pour nous, mais pour eux c'est très très dur.
Isabelle, alors moi je voulais témoigner parce que moi j'ai vécu dans une famille où on parlait couramment de la mort. J'allais avec ma mère visiter les morts, faire les veillées funèbres, je ne sais pas comment ça s'appelait comme ça. Et bon, j'ai côtoyé depuis toute petite la mort, les cadavres, j'ai voyé, bon voilà. On passait la nuit, on priait au pied du lit, après on buvait le café, on parlait de tout et de rien, on rigolait. Bon, voilà. Il n'y avait pas que les pleurs, il y avait aussi de la rigolade. Donc, c'était une autre époque, on va dire, parce que maintenant, ben, voilà, on cache la mort, on va vite dans les chambres funéraires, alors qu'avant, on les gardait à la maison. Moi, j'avais 9 ans, hein, j'avais mon oncle qui était mort à 48 ans d'un infarctus qui vivait chez nous. Moi, j'emmenais les gens qui arrivaient, on montait à la chambre, on allait voir le défunt, j'accompagnais pour les prières et tout. Enfin, j'étais là, c'était au mois d'août, j'enlevais les mouches qui étaient sur le cadavre. Et puis après, on descendait, bon, c'est bon, j'attendais qu'ils aient fini leur prière. Et puis on allait boire le café et puis on discutait de tout et de rien. Donc moi, j'ai vécu comme ça. Mon rapport à la mort, quand j'ai fait mes études d'infirmière, alors là, pas de souci, hein, dans les services. Et puis après, ben, j'ai aussi fait de la pédagogie et j'ai voulu faire le cours sur le deuil, la mort, la séparation, tout ça. Donc, je veux dire, pour moi, après, mes parents sont morts. Mon père est mort subitement d'une rupture d'anévrisme. Ça a été soudain, on ne s'y attendait pas. Mais bon, voilà, ma mère est morte aussi des suites d'un AVC, d'une hémorragie cérébrale. Je le savais plus ou moins, suivant les traitements qu'elle avait, j'avais averti mon père qu'un jour ou l'autre, elle ferait une hémorragie cérébrale. C'est ce qui est arrivé. Je l'ai accompagnée, voilà, elle est descendue avec les pompiers, je l'ai accompagnée à l'hôpital. Et puis on a attendu, c'était tout inondé dans sa tête, hein, de sang, donc on a attendu la mort, parce qu'il n'y avait rien à faire, et puis je le savais très bien. Et donc, de là, elle s'est éteinte en fin de journée, paisiblement. Alors, c'était drôle parce que quand je bossais, il y avait des collègues infirmières qui disaient « Attends, mais moi, si ma mère, elle mourait, mais je ne peux pas vivre, je ne peux pas vivre si ma mère, elle meurt comme ça. » Je dis bah, « Si, quelque part, de toute façon, la mort, c'est la vie, c'est un événement. Il y a la naissance, il y a la mort, tu le sais très bien. Et c'est des passages... obligé, comme vous disiez aussi tout à l'heure. Et je veux dire, il faut y penser. Il faut y penser. Bon, c'est sûr que nous, on en parle souvent. Il faut en parler, comme je dis, entre le fromage et le dessert. Moi, je sais que quand des fois, je vais à un enterrement, je reviens, je dis, ah, ils avaient mis cette musique, elle est super. Non, mais alors celle-là, par contre, vous ne me la mettrez pas. Hein. Voilà. Alors, il faut en parler comme ça, avec humour aussi. Enfin, je veux dire, comme un fait, comme à une naissance, on va dire, ben tiens, on va l'appeler comme ça, on va organiser la cérémonie, le baptême, si on fait un baptême, des choses comme ça, quoi. Et le fait d'en parler un peu couramment, le mot mort, arrêter de dire aussi aux enfants, ben il est parti, puis alors le gamin, un jour, il dit, il est parti, mais alors il va revenir au voyage, là, il va revenir un jour ou l'autre. Voilà, mettre les mots justes aussi, voilà. Puis commencer, ben peut-être par les animaux familiers, tout ce qui est autour de nous, c'est vie et mort. Une plante, elle meurt. Les arbres, ben, même s'ils attrapent un insecte ou une maladie, ben, ils meurent. Le chien, le chat, alors c'est sûr qu'il faut expliquer aux enfants qu'il y a une perte, que c'est sentimental, qu'on a de l'affection et qu'on est triste. Et c'est normal d'être triste, voilà. Donc, je pense que, voilà. Alors après, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'après la mort de ma mère, eh ben, des fois, elle me faisait des petits signes. Et même des fois, toujours, elle me fait des petits signes. Et ça, ben, vous y croyez si vous y croyez. Hein, y a différentes... Mais bon, par exemple, il y a des choses, on va dire, extraordinaires qui se passent, quoi. C'est là que vous sentez que vos défunts, les défunts, sont pas loin non plus, et dans une autre dimension. Et moi, une fois, j'étais à la salle de bain et carrément, j'ai vu son visage sur le miroir, à la place du mien. Alors, j'ai dit, ah, salut maman, tu me fais un petit clin d'œil ce matin. Voilà. Donc, voilà. Et si vous voulez, voilà, c'est notre dimension, c'est la vie. On est infiniment petits. Enfin, pour moi, je me représente voilà, comme ça. La vie, la mort, alors c'est sûr que... Voilà. Voilà. Moi, j'ai été contente, en fait, de venir là. J'ai dit, ben, je vais connaître cette association-là parce que c'est hyper important pour les directives anticipées et tout ça. Moi, je voudrais qu'on revienne à garder les morts à la maison parce que ça permet de faire le deuil. Porter le deuil, faire tous ces rites qu'on en a besoin pour intégrer la mort. Parce que maintenant, hop, il est mort, le lendemain, on va au boulot. Et au boulot, les autres, ils ont tellement la trouille de la mort qu'ils n'osent même pas dire comment ça s'est passé, comment tu te sens aujourd'hui et tout ça. Et que ça fait qu'on n'en parle pas non plus au boulot. Voilà, on mange la gamelle ensemble, mais on n'y est plus rien. Alors que, et puis on balaye tout de suite la mort. Alors non, un deuil, c'est long. C'est très long, un deuil. Et avant, quand il y avait les insignes, qu'on mettait le bouton noir sur la veste, pour les anciens, peut-être ils sauront, qu'on mettait, on s'habillait déjà un peu en noir, c'était des codes sociaux pour montrer, attention, je suis fragile en ce moment parce que je suis en deuil. Et du coup, même les gens, des fois, ils voyaient la marque ou qu'on voyait qu'ils portaient plus le deuil, ben, on lui disait, en fait, t'as perdu quelqu'un, et oui, et parle. Et répétez. Moi, mon père, il a eu son voisin, qui était son ami, qui est mort dans ses bras d'une crise cardiaque. Eh bien, on remontait le voir, et moi, ce qui m'étonnait toujours, et je me disais, c'est très bien, comme ça, il fera bien le deuil, il racontait comment s'était passée la crise cardiaque et qu'il était décédé dans ses bras. Et mon père répétait. Un jour, mes soeurs me disent « Écoute, le papa, il ne fait que de répéter ça, c'est mauvais pour lui. » J'ai dit « Non, laisse-le s'exprimer. » Il fallait qu'il l'imprime dans son cerveau, qu'il ait conscience. Et le fait d'en parler aux autres, il n'en a rien à foutre en fait des autres, c'est pour lui de se répéter. Il est bien mort, il a fait son arrêt, et on n'a pas pu le ranimer, tout ça. Donc aussi, il y a tout ça, et c'est pour ça qu'il faut en parler de la mort, mais il faut en parler de chacun, comment on le vit et tout. Et il faut que ça soit un sujet comme un autre, quoi. Voilà. Ouais. Merci.
Par rapport aux mots, par rapport à ce que tu dis aussi, on a souvent aussi les mots disparus.
Ah oui.
Disparus, ça fait
Et ben voilà. Et les enfants, faites attention à ça, parce que les enfants, du coup, eux, ils ont besoin du concret. Hein. Bon, ben, l'oiseau en cage, il est mort, on va aller l'enterrer, faire des actes symboliques. La grand-mère ou le grand-père est mort, on va au cimetière, on fait un acte symbolique, on pose des choses, on peut lui écrire un petit mot qu'on glisse dans la tombe. Et c'est hyper important.
Je vais encore parler de mon père. Moi aussi, j'ai vu mes grands-parents où j'ai assisté à la mise en bière. Où, d'ailleurs, je crois bien me souvenir que c'est les seules fois où j'ai vu des cadavres, en fait, parce qu'on n'est pas familiarisé avec la vue des morts physiques ou sous le coin de la route quand c'est un accident, mais c'est toujours un peu violent, brutal. Et je crois que ça m'a servi dans ma vie de savoir, de voir un mort, en fait, hein, quelque part. Mais du coup, pour ce qui est de mon père, là, et donc ça va être intéressant par rapport à ce que tu évoquais, là, c'est que dans ses directives, même s'il n'a mis pas tout à fait les directives qui auraient permis d'éviter la situation que j'ai décrite, il avait fait don du corps à la science. Et donc... juste pour témoigner, ce que j'ai trouvé, c'est la première fois que je voyais mis en œuvre ce dispositif-là, et du coup on était exposé de près. Ça veut dire que si on n'a pas, enfin si le corps est, exploitable, si j'ose dire, vous pardonnerez le mot, et qu'il n'y a pas eu de suicide, donc pas besoin d'enquête, c'est-à-dire que le corps peut être utilisé très rapidement, il est tout de suite envoyé dans un CHU, du coup, j'imagine c'est pour servir aux étudiants de médecine pour s'exercer. Et donc l'esprit, ou en tout cas le slogan de ce dispositif-là, c'est la mort au service de la vie. Mais du coup, quand on choisit ça, on exclut le fait de pouvoir organiser la mise en bière, la vue d'un mort, etc. Alors, moi, personnellement, ce que j'ai trouvé, alors à la fois, je trouvais ça très vertueux et très altruiste comme démarche, qui est de dire, utiliser mon corps et ça servira à plein de choses. Je trouvais ça très... je suis plutôt dans cet esprit-là. Il faut que je médite un peu la question pour savoir, effectivement. Mais je suis plutôt pour. Deux, il y a un côté... Alors, j'allais dire pratique, dans le sens où, habituellement, quand quelqu'un meurt, on est tout de suite, absorbé par les étapes administratives d'organisation des obsèques, des machins, etc. Donc, quelque part, je trouve que ça empêche aussi un peu d'être concentré un peu peut-être sur ses sentiments, son deuil, le partage, puisque on a ça à gérer, quoi. Organiser des obsèques, en plus, il y a les gens qui vont vouloir venir être là, présents, etc. Forcément, l'enterrement ne tombe jamais au bon moment, quoi. Donc, ceux qui regrettent de ne pas pouvoir être là. Et là, en fait, du coup, il n'y avait pas de cérémonie organisée puisqu'il y avait don du corps. Et donc, c'était très doux, finalement, en fait. Alors, du coup, il n'y a pas le moment de retrouver, etc. Avec mon frère, on a dit, on essaiera de faire un moment. Puis on s'aperçoit qu'après quelques temps, c'est peut-être un peu plus... Enfin, pas compliqué à organiser, ce n'est pas la question d'organiser, mais... assez persuadé que les gens sont passés à autre chose. Donc, se remobiliser dans un autre, dans l'espace-temps qui n'est plus celui de la mort, j'ai peu d'espoir que les gens soient mobilisables. Et je n'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça. Mais, du coup, je par rapport au témoignage que vous donniez, là, je suis finalement assez partagé sur le fait que dire c'est bien, mais effectivement, ça coupe de certaines choses. Donc, ça m'interpelle.
Moi, je rebondis aussi par rapport au rituel dans la famille. J'ai connu aussi des décès de mon arrière-grand-mère, de mes grands-parents, où effectivement, on voyait le corps dans la maison, où toute la famille était réunie, où tout le village venait visiter le corps. Et ensuite, on avait aussi le goûter pour tout le monde après la cérémonie, et c'était ce que je trouvais bien, c'était le partage de vie des personnes, des différentes personnes avec mes grands-parents, d'apprendre des choses, des anecdotes, je trouvais ça sympa. J'ai vécu celui de mon grand-père un peu difficilement, c'était assez bizarre parce qu'en fait, je suis jamais arrivée à rentrer dans la pièce où il était. J'avais comme l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'en empêchait. J'avais 15 ans à l'époque, et ça a été assez violent, et cette cérémonie-là, je m'en souviens un peu, finalement, je me souviens surtout de ça. Et là, récemment, j'ai perdu ma mère, donc l'année dernière,
Ça a été assez violent. C'était suite à un cancer, à une troisième récidive. On savait que c'était la fin. Et il y a eu beaucoup d'acharnement thérapeutique. À l'hôpital, donc à la fin, elle était à l'hôpital et elle enchaînait transfusion sanguine sur transfusion sanguine. Et elle me disait, j'ai plus rien de moi, sans mon corps, j'ai plus rien. C'est plus moi, avec tous les produits chimiques. Et son vœu, c'était de rentrer chez elle. Donc, on a tout fait pour qu'elle rentre. Et donc, elle a réussi à retrouver sa chambre, à nous avoir autour d'elle. Mais sa fin était vraiment très, très difficile, très douloureuse, parce qu'elle souffrait beaucoup. Et elle se battait beaucoup aussi. On sentait qu'elle savait que c'était la fin, nous savions que c'était la fin, mais qu'elle résistait aussi, qu'elle se battait. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de... pas ambigu, mais c'était dur, quoi. C'était... Et du coup, moi qui me sentais prête, même face à elle comme ça, j'étais plus prête du tout, en fait. Comme je la voyais se battre, j'avais presque... c'était ridicule, mais j'avais presque espoir qu'elle ne parte pas. Alors qu'en fait, je savais très bien que c'était fini. Et la fin a été dure, en fait. C'était une embolie pulmonaire, donc elle s'est étouffée, en fait, pendant 3 heures, quoi. Et on était tout seuls. Pas d'aide, et ça a été vraiment très très dur. Et en fait, moi j'ai ce souvenir là, cette souffrance, et je vois que ma mère à travers ça, et ça me coûte parce que j'aurais aimé avoir de meilleurs souvenirs, mais je travaille là-dessus. Et j'essaie de retrouver les souvenirs par sa sœur, son frère. Mais c'est quand même dur, je trouve. Et j'aimerais bien avoir une image positive. Et surtout que, comme on parlait aussi des cérémonies, le corps de ma mère a été enlevé tout de suite. On nous a dit, donc c'était sur Grenoble, on nous a dit, non, le corps, il ne peut pas rester là. Il faut tout de suite l'emmener... au centre funéraire, et là-bas, vous pourrez la voir. Et ça a été vraiment difficile, parce que j'ai 2 frères, et dont un qui est à La Réunion. Donc lui, il n'a pas pu la voir chez elle, mais il a quand même pu la voir le lendemain. Mais c'est très violent, le fait d'enlever le corps de la maison, de son lieu de vie. Tout ce que j'ai vécu avec mes grands-parents, mon arrière-grand-mère, ça, je n'ai pas pu le faire. Et après, on a passé une semaine avec mes frères pour organiser la cérémonie parce que l'enterrement se faisait au bout d'une semaine. Et finalement, c'était bien parce que ça nous a permis de mettre un peu de cartes sur table, de se poser, de se retrouver, de se raconter justement des anecdotes, des choses et d'organiser une cérémonie pas gaie, mais disons qu'on était bien. Ça a un peu effacé le côté dramatique de sa maladie qu'on avait vécu ensemble à sa fin. Et c'est vrai que je me dis, le jour où j'aurai des petits-enfants, bon, je parlerai de ma mère d'une autre façon que de ça. C'est qu'elle a souffert pendant pratiquement 10 ans. Quoi. Donc c'est difficile de retrouver des moments où elle était bien, quoi. Et moi, c'est ce qui me manque, en fait. Et j'aurais voulu l'accompagner mieux, d'être plus sereine, d'avoir des choses à partager dans ces derniers moments. Et ça n'a pas été possible, quoi.
Ma mère est décédée très rapidement, avec beaucoup de chance d'avoir ce style de décès. Elle tombe par terre, paf, elle est morte. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'est ça qui a été difficile d'accompagner. Ça a été... mon père qui ne s'attendait pas du tout à cette mort imminente, et toute sa souffrance à lui, et comment on accompagne cet homme qui a 88, 9 ans, on peut l'accompagner dans ce moment de son deuil à lui, deuil auquel il ne s'attendait pas. Il a complètement perdu pied, perdu la tête. Il s'est installé dans une démence rapide. Il hurlait qu'il était abandonné par sa femme. Il ne comprenait pas. Et ça a été, ouais, c'est, pour moi, ça a été le plus difficile à vivre, cet accompagnement de quelqu'un sur un deuil imminent comme ça, auquel on ne s'attendait pas. Et mon père est désormais en EHPAD. Bon, ça fait maintenant 8 ans que ma mère est décédée. Mais de toute façon, voilà, ça l'a complètement fait vriller, quoi. Il ne s'est plus alimenté, ça a été très très difficile d'accompagner ça. Et effectivement, j'en ai un peu voulu au médecin du SAMU d'avoir transporté le corps de ma mère sans demander à qui que ce soit ce qu'on pouvait en faire ou si on pouvait la laisser, tout simplement parce que ma mère n'avait pas fait ses directives anticipées. Et que donc, de ce fait, elle n'avait pas pu annoncer au préalable si ce qu'elle voulait sur une mort imminente annoncée. Donc il n'y avait pas ça, et c'est vrai que ça, par contre, mon père a eu encore cette lucidité tout de suite après la mort de ma mère en disant « moi je vais faire mes directives anticipées » qu'il a distribuées à tout le monde en disant « je ne veux pas ce genre de décès là, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis » et voilà, offrez comme ça pour moi. Et voilà.
Moi, c'est par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai subi plusieurs opérations en quelques années et c'est vrai que chaque fois que je remplis les demandes d'admission et tout ça, il y a toujours un paragraphe, directive anticipée, que je ne remplis jamais. Avant d'être hospitalisé, vous avez des papiers à remplir. Et il y a toujours un paragraphe, directive anticipée. Et que je ne remplis jamais, parce que jusqu'à maintenant, je n'en voyais pas l'utilité. Et le fait d'être venu ce soir, ça me fait réfléchir.
En fait, par rapport à tout ce qui se dit et ce dont on parle, ou quand on parle de la mort, c'est souvent parce qu'on on parle de la sienne et toujours dans une perspective de fin de vie ou durée de vie raisonnable, si je veux dire, quelque part en disant quand l'échéance arrivera. Et moi, quand je me mets dans cette perspective-là, je n'ai pas d'angoisse par rapport à ça, parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est la seule certitude que j'ai. La seule angoisse que j'ai, moi, c'est la souffrance ou la déchéance, et ça, c'est, je pense que c'est un truc que je ne sais pas gérer, que je ne sais pas si j'arriverai à le gérer, mais que c'est quelque chose que j'ai un peu au fond de moi. Et après, l'autre, que on va dire, angoisse que j'ai en lien avec le sujet de la mort, c'est plutôt, enfin, quand, si je projette celle des autres et de mes enfants, quoi, parce que là, je pense que ça me serait insupportable, et je ne crois pas qu'on puisse se remettre, enfin, c'est pas dans l'ordre des choses que d'enterrer ses enfants, quoi. Et voilà. Et c'est quelque part, du coup, la mort n'est pas un problème pour moi. C'est plutôt ma propre déchéance, ma propre souffrance et celle de ma progéniture, quoi. Voilà. Je m'estime résilient à plein d'égards ou costaud sur plein de choses, mais là, je pense que j'ai cette fragilité. Je sais pas si c'est une fragilité, mais en tout cas, cette lucidité à ne pas pouvoir m'accommoder de ça, quoi, en fait. Voilà.
Donc Yves tout à l'heure a parlé de notre petit-fils qui avait très mal pris les choses. En 2018, il perd celui qu'il appellera Polo, qui est l'ami de sa grand-mère. 2 ans après, il perd son grand-père, Papy Chapeau. Et puis ensuite, 2 ans après, c'est son autre grand-père qui tombe malade. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et on va justement réussir, lui et moi, à se parler. Et moi, depuis que je suis tout enfant, pour moi, quand on meurt, on va dans les étoiles. Donc je vais dire à mon petit-fils, voilà, ma fille a déjà dit ça, mais voilà. Et il me dit, mamie, je veux dessiner, je veux faire, voilà. Et là, je vais lui faire un tableau qui va exprimer, il va exprimer sa peine et sa douleur de ne pas savoir où sont partis ses grands-pères. Et donc, je vais lui faire ce tableau qu'il va garder. Et un jour, quand le grand-père, enfin, Yves, tombe malade, il me dit « Et papy, il ira où ?» Je lui dis « Tu choisis une planète aussi pour papy. » Et là, il me dit « Oui, mais tu comprends, papy Polo et papy... » Je parle de l'enfant, hein, c'est pas tout important. « Papy Polo et papy Chapeau ne s'entendaient pas. Comment on va faire ? Comment moi, quand je vais mourir, je vais aller où ?» Et je lui fais « Mais tu sais, ça n'a pas d'importance parce que quand on est mort, on s'entend tous très très bien. » Et tu pourras aller là où tu veux, et tu choisis la planète bien que où tu iras, et voilà. Et donc il va choisir sa planète, et on va rajouter une troisième planète. Et je trouve que quand on s'exprime, que ce soit par les mots, que ce soit par des dessins, il y a toute une souffrance qui s'enlève, voilà. Et aujourd'hui, bien le tableau est posé à plat sur sa commode, et je me dis ah, il a fait son deuil. Voilà.
Que je vous encourage et vous conseille de regarder parce qu'elle est vraiment très marrante et très originale. Tout ça pour dire que je clôt le premier volet des Cafés Mortels en compagnie de l'association Thanatosphère au poids de l'utopie. Je vous propose de retrouver un deuxième volet en ma compagnie.